Chers collègues, bonjour. J'aimerais, si vous le voulez bien, centrer mon intervention sur les relations entre l'épidémie du sida, les défis qu'elle soulève et ce que le professeur Mantel a développé ce matin sur la santé publique mondiale, la santé globale, comme on l'appelle maintenant. Je crois en effet que le sida a été l'un des révélateurs qui a considérablement modifié notre façon de penser les liens entre la société, la politique, les liens entre le Nord et le Sud, la solidarité dans la globalisation, et donc notre façon de replacer dans le monde la place de la santé dans le développement. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, et au moins pour les trois raisons que j'indique sur cette diapositive. Tout d'abord parce que le sida est une maladie qui érode le capital humain. En s'attaquant à une population jeune et productive, et donc le monde, dans les années 90, a brusquement pris conscience de l'impact extraordinaire, au sens étymologique du terme, qu'il soit humain, de souffrance et de mort, de l'impact démographique, de l'impact économique, de l'impact sociétal et de l'impact sur le développement de l'épidémie du sida. Le sida, dans les années 80, avait été dans chacun de nos pays, ici en Allemagne, en France et bien sûr aux États-Unis, un révélateur de dysfonctionnements sociaux importants. Dans les années 90, il est devenu un profond révélateur des dysfonctionnements des relations entre le monde riche et le monde en développement. Le sida a rapidement appréhendé l'attention du monde politique au travers de ce que, en érodant le capital humain, en déstructurant les sociétés dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, il devenait une menace aux équilibres économiques, une menace aux équilibres sociaux et une menace aux équilibres politiques. L'attention politique a été attirée pour la première fois lorsque le président Clinton et Richard Holbrooke, qui était à l'époque conseiller à la sécurité, ont appelé en janvier 2000 pour la première fois une réunion du Conseil de sécurité qui portait sur une maladie et non pas sur un sujet de guerre et de paix. Et en 2001, l'Assemblée générale des Nations unies s'est réunie pour la première fois dans son histoire dans une session extraordinaire qui était consacrée, elle aussi, à une maladie. Et puis enfin, dans un monde qui se globalise, il s'est construit ce que j'appelle ici une opinion publique mondiale. Et s'il y a un sujet sur lequel cette opinion publique mondiale semble être bien d'accord, c'est celui du caractère inacceptable de l'inégalité qu'il y a en termes d'accès aux traitements et aux soins entre les pays du Nord et les pays du Sud, et ce déséquilibre de l'accès aux soins a été particulièrement mis en lumière par l'épidémie du sida. J'irai très rapidement pour vous présenter cette épidémie dont vous connaissez les contours. C'est vous voyez sur cette diapositive le nombre de personnes vivantes estimées dans le monde en fonction du temps infectées par le virus du sida. Vous voyez que ces chiffres continuent de croître et l'on estime que le pic de l'épidémie pourrait peut-être être atteint seulement dans les années 2040 ou au-delà. On estime qu'il y a actuellement près de 40 millions de personnes vivant dans le monde infectées par ce virus et que 4,3 millions d'infections nouvelles surviennent chaque année et vous voyez sur cette diapositive que la moitié de ces infections survient dans une population âgée de 15 à 24 ans. La moitié survient, même un peu plus de la moitié survient maintenant chez des femmes. Et 90% de ces nouvelles infections surviennent dans des pays pauvres. Ce déséquilibre entre l'incidence chez l'homme et chez la femme se traduit pour des raisons complexes dans lesquelles je n'entrerai pas ici parce que la discussion serait trop technique, par un déséquilibre important de prévalence entre l'homme et la femme dans les pays pauvres. Vous voyez ici, en Afrique du Sud, en violet, la prévalence de l'infection dans une population féminine dans différentes tranches d'âge, et chez l'homme, en vert, vous voyez par exemple que chez les jeunes femmes âgées de 21 ans, la prévalence atteint 31% en Afrique du Sud, contre 6% chez les jeunes hommes. On est clairement en face d'une épidémie hors contrôle, une épidémie d'un impact, je l'ai déjà dit, démographique, économique et sur le développement sans précédent. Pour illustrer cet impact, je montrerai deux diapositives. Cette première diapositive qui a été élaborée à partir de modèles mathématiques, mais dont les données 2000-2005 se sont maintenant vérifiées, c'est une diapositive qui projette la mortalité estimée dans la tranche d'âge 15 à 34 ans en Afrique du Sud s'il n'y avait pas eu l'épidémie du sida et en présence d'une épidémie du sida et pour l'avenir dans l'hypothèse où on ne disposerait pas d'une intervention à grande échelle. Et vous voyez qu'on attendait par exemple dans les années 2000, dans les 5 années 2000 à 2005, environ 180 000 décès dans cette tranche d'âge 15 à 34 ans en Afrique du Sud et que ce nombre des décès aura en fait été au-delà de 1 250 000. Donc on arrive, on arrive donc dans des chiffres et des proportions totalement considérables. Vous voyez ici la baisse de l'espérance de vie, c'est-à-dire la façon dont le sida en 15 à 20 ans a ruiné les efforts et les progrès de 30 ans d'années de développement. Et vous voyez dans des pays comme le Zimbabwe, comme l'Afrique du Sud, comme le Botswana, une espérance de vie qui a chuté de 55-60 ans jusque maintenant 40 ans ou 35 ans du fait de l'épidémie du sida et une érosion de l'arbre démographique très importante. Au-delà de l'impact sur la mortalité, l'impact sur la société, en particulier, comme vous le voyez dans la courbe de droite, violette, le nombre croissant des orphelins du sida dans le monde, estimé à environ 14 millions actuellement, 18 millions d'orphelins en 2010, des orphelins pour la plupart pauvres, sans éducation, sans structure sociale, eux-mêmes très vulnérables à l'infection. Vous voyez ici, dans les courbes de droite de cette diapositive, à quel point la prévalence du sida dans un pays influe sur le risque sur la survie chez le petit enfant. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est la probabilité de décès avant l'âge de 5 ans d'enfants en fonction de la prévalence de l'infection par le VIH dans ce pays, en Afrique subsaharienne. Et vous voyez qu'elle est de l'ordre de 2% lorsque la prévalence est basse, inférieure à 5%, et elle est de 27% lorsque la prévalence atteint 20%. Enfin, et je suis certain que Stéphane Kaufmann tout à l'heure reviendra sur cette question, en matière de lien entre différentes maladie, l'épidémie du sida est à l'origine de la résurgence de la tuberculose. Et vous voyez ici en bleu une courbe qui est relativement plate du nombre moyen d'incidence de la tuberculose dans la population générale à l'échelle mondiale. Et en rouge, en Afrique subsaharienne, la croissance de cette courbe dans les années 90 à 2000 et qui est essentiellement lié au virus du sida qui, vous le savez, vulnérabilise les gens à l'infection par la tuberculose. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que cet impact du sida a, je crois, été un facteur majeur dans le changement de paradigme sur le lien entre santé et développement. Dans les années 70, dans les années 80, on pensait qu'il fallait avant tout développer pour que la santé vienne par surcroît, en quelque sorte. Il fallait travailler sur l'eau, les routes, l'éducation, la démocratie, la gouvernance. Et puis, la santé était une sorte de dépense nécessaire, mais elle viendrait comme la conséquence du développement. Le sida nous a appris que si l'on ne place pas la santé au cœur de l'effort du développement, eh bien, il n'y aurait tout simplement plus de capital humain pour développer. Et cela a contribué, avec un certain nombre d'autres facteurs, à faire, comme l'indique le deuxième paragraphe de cette diapositive, que la santé ne peut plus être considérée dorénavant comme une conséquence de l'effort de développement, mais bien comme un facteur de développement, et que le secteur de la santé, qui avait été longtemps considéré comme un secteur non profitable de dépenses, est maintenant considéré de plus en plus comme un investissement nécessaire dans le développement. Et cela, indépendamment même des progrès que fait la notion de la santé comme droit de l'homme ou comme bien public global. Je sais que ce sera l'objet du débat demain soir, mais vous savez que ce sujet de savoir si la santé, et j'ai plutôt envie de dire si l'accès à la santé est un droit de l'homme, c'est un débat qui reste controversé et sur lequel nous autres Européens avons des vues quelque peu différentes de nos collègues aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, cet changement de paradigme sur santé et développement a placé la santé brusquement au début des années 2000 dans l'objectif des politiques et dans l'agenda politique. En 2000, pour la première fois, le G8 inscrit la santé à son ordre du jour à Okinawa. En 2000, cela a été rappelé par le professeur Mantel ce matin, les Nations Unies développent les objectifs du millénaire pour le développement et 4 de ces objectifs sont directement liés à la santé. En 2001, pour la première fois, l'Assemblée générale des Nations Unies se réunit sur un sujet qui est une maladie, le sida. En 2002, le G8 amène à la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. En 2003, le président Bush lance une initiative d'une ampleur sans précédent appelée PEPFAR, Presidential Emergency Plan for Aid Relief, de 15 milliards de dollars sur 5 ans. Et puis, en 2005, les chefs d'État du G8 se réunissent à Gleneagles et déclarent qu'ils demandent à la communauté internationale de développer tous les efforts pour que, d'ici 2010, on arrive aussi près que possible de l'objectif d'un accès universel à la prévention et au traitement du sida pour toutes les personnes qui sont éligibles dans le monde. Et on voit à ce moment-là à quel point la question de la santé nous relie aux grands enjeux de la mondialisation et de ce que demande la mondialisation. Est-ce que la mondialisation, qui est une source de richesse et une source d'opportunités extraordinaire, mais qui est aussi une mondialisation qui laisse de côté des centaines de millions de personnes dans la pauvreté extrême, dans la faim, dans l'analphabétisme et dans la maladie, est-ce que cette globalisation doit n'être qu'un marché ouvert apportant des opportunités pour chacun, ou bien cette globalisation, devons-nous tous influer pour qu'elle soit en quelque sorte biaisée et pour qu'elle prête une attention singulière aux plus pauvres et aux inégalités. Dans ce renouveau des efforts de la lutte contre la pauvreté, d'une mondialisation plus humaine, plus sociale, et d'une place singulière de la santé dans ses efforts de développement et de lutte contre la pauvreté, tout un certain nombre d'initiatives ont été développées. Bien sûr, les objectifs du millénaire, le professeur Mantel a cité certaines de ces initiatives. L'objectif que s'est fixé la communauté internationale d'atteindre 0,7% du produit national brut pour l'aide au développement, objectif que l'Union européenne s'est fixé pour 2012-2015, donc on est encore loin de là. La déclaration de Paris sur l'harmonisation et les modalités de l'aide au développement. Tous ces efforts sont allés, et c'est là-dessus que j'aimerais insister, sont allés très au-delà des paroles. Et pour une fois, quelque part, je considère que le G8 a tenu jusqu'à présent ses engagements, et que véritablement, on a vu dans les 5 dernières années les choses changer considérablement, et changer dans des proportions que, je vous l'avoue, en tant que médecin du sida qui a travaillé depuis les tout premiers jours de l'épidémie dans ce domaine, je n'imaginais pas il y a encore 4 ou 5 ans. Il y a 5 ans, lors de la conférence internationale sur le sida que nous avions à Barcelone, il y avait dans le monde 180 000 personnes dans le monde en développement qui accédaient au traitement antirétroviral. Il y en a 2 300 000 au moment où nous parlons, et aucun de nous n'imaginait que cela serait faisable. Alors, que s'est-il passé dans ces 5 dernières années? Il s'est passé d'abord ce changement de paradigme sur lequel j'ai brièvement parlé au début de cet exposé. Il y a eu une mobilisation sans précédent de l'opinion publique et de ce que j'appelle l'opinion publique globale, une mobilisation sans précédent de la société civile, et des personnes atteintes elles-mêmes qui ont joué un rôle fondamental dans cette mobilisation de la société civile, tant dans le Nord que maintenant dans le Sud, où elles parlent à visage découvert, une mobilisation du monde politique, une mobilisation des ressources, sur laquelle je reviendrai, à laquelle le professeur Mantel a fait allusion ce matin, des progrès, et c'est important, de la recherche, avec l'émergence, Philippe, tu vois, c'est sur ma diapositive, d'une nouvelle science que j'appelle ici la recherche opérationnelle, c'est-à-dire une science qui nous amène à tirer les leçons de l'expérience en même temps que nous réalisons les programmes sur le terrain. Dans ces 5 dernières années, on a vu se clore un débat qui existait au début des années 2000 sur faut-il aller plutôt vers la prévention ou faut-il aller plutôt vers le traitement en aboutissant à un consensus très clair sur l'intégration nécessaire de ces deux interventions. Et enfin, on est véritablement maintenant dans ce domaine de la santé publique, dans des programmes à très grande échelle. Voilà ici une courbe qui vous montre la croissance des ressources disponibles pour la prévention et le traitement du sida, 9 milliards de dollars en 2005-2006, et les événements déclenchants, le premier programme de la Banque mondiale qu'on appelait MAP, la création du Fonds mondial, puis l'initiative américaine PEPFAR, et donc les grands bailleurs sont bien d'abord les pays eux-mêmes qui investissent de plus en plus, alors que les pays africains, dans les années 90, tendaient à même presque cacher l'épidémie présente dans leur pays. Ils n'étaient pas politiquement corrects d'apparaître comme un pays très atteint. L'aide publique multilatérale, qui est avant tout celle du Fonds mondial, et l'aide de la Banque mondiale, l'aide publique bilatérale, en premier lieu l'aide américaine, mais aussi l'aide de l'Union européenne, et enfin les fondations privées, qui jouent un rôle croissant. Vous connaissez tous ici la part importante que la Fondation Gates joue déjà et va jouer encore plus dans les années à venir dans le financement de la recherche, mais aussi de la prévention et du traitement de ces grandes maladies. Il reste que le gap financier est important, malgré cette augmentation des ressources. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette diapositive, mais si vous regardez en bas et à droite, il était estimé pour 2006 et 2007, pour les trois maladies, sida, paludisme et tuberculose, autour de 40 milliards de dollars sur 2 ans, 20 milliards par an. Ces sommes nous paraissent, à ceux d'entre nous qui venons du milieu de la recherche ou de la santé, des sommes importantes, mais elles sont évidemment des sommes minimes. La richesse mondiale annuelle s'accroît chaque année de 2000 milliards de dollars. S'il nous fallait atteindre les objectifs du millénaire du développement, on estime qu'il nous faut 100 milliards par an, c'est-à-dire en fait 5% de la seule croissance annuelle de la richesse dans le monde. Donc ces chiffres en fait ne sont pas importants. Ce qui le défi pour nous est d'arriver à ce que ces sommes se mobilisent, et nous ne sommes là qu'au milieu du gué, car, comme vous le voyez sur cette diapositive, alors que l'aide au développement a augmenté d'environ 70% entre les années 2000 et 2004, qui sont analysées sur cette diapositive, contrairement à l'impression que cela donne, le secteur de la santé a cru moins vite que de nombreux autres investissements dans le domaine du développement. Vous voyez qu'il a cru en moyenne de 59% contre 70% en face d'une croissance beaucoup plus importante de l'aide humanitaire, de l'investissement dans l'éducation et de l'investissement de l'aide au développement dirigé vers la gouvernance au sens large du terme. Je l'ai dit tout à l'heure, l'un des produits aussi de cette mobilisation politique et de ressources sans précédent est le Fonds mondial. Je ne peux pas ne pas montrer une diapositive sur le Fonds mondial dans le poste dans lequel je suis actuellement. Cette diapositive est d'ailleurs en retard. Le Fonds finance actuellement 440 programmes dans 136 pays sur 139 pays pauvres dans la classification de l'OCDE, à hauteur de 7 milliards de dollars. Il y a pratiquement 1 million de personnes maintenant traitées par les antirétroviraux, et vous le voyez, 2 millions de personnes qui ont été traitées dans les 4 dernières années pour la tuberculose et guéries. Et par extrapolation, un chiffre tout récemment calculé de ce que le fonds ou les fonds apportés par le Fonds mondial sauvent actuellement 3000 vies par jour dans le monde en développement, alors que les trois maladies sont estimées tuer environ 15 000 personnes par jour. Donc en 4 ans et demi, cette mobilisation, au travers en particulier du Fonds mondial, a permis déjà de diminuer de 20% la mortalité liée aux trois maladies dans le monde en développement. L'objectif de ce fonds, qui actuellement débourse 2 milliards de dollars par an, est d'arriver et de tripler sa capacité d'ici l'année 2010 à 6 milliards de dépenses par an. Alors ces dépenses, nous savons comment les faire, parce que dans le domaine du sida, même si on ne dispose pas encore d'un vaccin, même si on ne dispose pas encore d'un traitement qui permette d'éradiquer le virus de l'organisme des personnes infectées, nous disposons d'interventions en matière de prévention et d'interventions en matière de traitement qui sont efficaces et dont l'efficacité a été scientifiquement démontrée, même si elle est parfois mise en cause par le virus idéologique dont, Philippe, tu parlais ce matin. Ces interventions de prévention efficaces, c'est bien sûr l'information et l'éducation, c'est la promotion du préservatif, c'est maintenant la circoncision chez l'homme adulte qu'il nous faut traduire en une intervention de santé publique. Ce sont les stratégies de réduction des risques chez les usagers de drogue, le traitement substitutif, l'échange d'aiguilles et de seringues. C'est la prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant, que l'on sait parfaitement efficace avec les antirétroviraux. Et c'est aussi l'extension et la généralisation de l'accès au traitement pour les personnes infectées qui, en diminuant la charge virale moyenne dans la population infectée, devrait, d'après les modèles dont on dispose actuellement, influer considérablement sur la transmission horizontale et donc sur la diffusion de l'épidémie. Et la prévention, contrairement à ce que un certain nombre de personnes disent ou ont pu penser, les interventions dont nous disposons, qui sont difficiles et dont l'impact est très difficile à mesurer, puisque on ne sait pas mesurer un événement qui ne survient pas, ces interventions sont efficaces, car dans certains groupes ou dans certains contextes régionaux, on peut maintenant mesurer l'incidence des nouvelles infections. On a vu l'infection diminuer considérablement chez les homosexuels aux États-Unis et en Europe. On a vu dans notre pays, la France, il n'y a pratiquement plus d'usagers de drogue qui s'infectent maintenant par le virus du sida, donc un succès total des stratégies de réduction des risques. Et puis l'incidence a été bien documentée comme ayant diminué En tout cas, en Thaïlande, au Brésil et au Cambodge, je serai plus prudent sur l'Ouganda. Vous voyez ici une modélisation de l'ONU-SIDA sur ce qu'on attendait être d'une épidémie non contrôlée en Thaïlande, en jaune, et de ce qu'elle aura été la progression épidémique en rouge. Et vous voyez ici des progrès considérables qu'on a faits en matière de prévention de la transmission du virus de la mère à son enfant, dans le contexte des femmes allaitantes. Ici, ce sont des recherches menées en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et ce que vous voyez de gauche à droite, ce sont d'abord, tout à fait à gauche, 22% le risque moyen de transmission du virus de la mère à son enfant en l'absence de traitement. Et puis, des années 99 à 2006, les progrès qui ont été réalisés dans différents protocoles de traitement que je ne détaillerai pas et qui amènent maintenant à 5% ou à moins de 5% ce risque de transmission qui a donc été diminué par un facteur 4. Je vais passer ça. Et puis, de nouveaux outils de prévention commencent à arriver. Et là, il faut qu'on soit attentif, car ces nouveaux outils de prévention sont très techniques. Et la prévention est évidemment un sujet beaucoup plus complexe qu'une seule intervention médicale à l'échelle d'une société et dans le contexte de la santé publique qu'on discute aujourd'hui. Mais parmi ces nouveaux outils, il y a ce qu'on appelle le traitement pré-exposition, c'est-à-dire la possibilité pour quelqu'un de prendre un comprimé d'un médicament avant qu'il ne s'expose au risque, éventuellement. Donc, quelque chose qui, pour les femmes qui ne peuvent pas négocier un acte sexuel non protégé, peut être d'une grande importance. La circoncision chez l'homme adulte, dont j'ai déjà parlé, et puis les progrès que nous attendons dans les prochaines années dans le domaine des microbicides et des vaccins. J'ai déjà dit que le débat sur prévention et traitement était quelque part relativement clos et que maintenant on considère vraiment que ces deux éléments s'intègrent dans une seule approche de l'accès aux soins et de la lutte contre le sida. On peut être quelque part un peu inquiet sur ce sujet parce que dans nos pays du Nord, aux États-Unis et maintenant en Europe, il y a quelques signes d'une nouvelle augmentation du nombre de cas, de nouvelles infections dans la population générale, ou plutôt dans certaines tranches de la population, notamment parmi, en tout cas, un sous-groupe d'homosexuels masculins, par exemple. On a un peu rapidement dit que l'arrivée des traitements a pu donner une sorte de fausse sécurité aux gens qui leur fait maintenant négliger la prévention et qui fait que la population générale serait moins craintive à l'égard du sida qu'elle ne l'était évidemment dans les années 90. Les chercheurs en sciences sociales, il y en a dans la salle et il y a des gens beaucoup plus spécialisés que moi sur ce domaine, nous disent qu'il faut être très attentif avant de créer ce lien de cause à effet entre l'arrivée du traitement et l'augmentation récente, en tout cas dans certains groupes de la population, de l'infection dans les pays du Nord. Mais en ce qui concerne en tout cas les pays en développement, les données dont on dispose sont tout à fait différentes. Elles sont au contraire que l'arrivée des traitements a un impact très positif sur la prévention. L'arrivée des traitements amène plus de personnes à se faire tester. Elle amène plus de femmes, par exemple, enceintes, à accepter le test au début de leur grossesse parce qu'elles comprennent que cela permet l'accès au traitement et éventuellement à la prévention de la transmission du virus à leur enfant. Et bien évidemment, pourquoi en général les gens iraient se faire tester, ce qui est à la base des stratégies de prévention, si derrière un test positif, il n'y a aucun espoir de traitement et que la seule conséquence d'être découvert séropositif, c'est en fait la discrimination par l'entourage et par la communauté. Il y a aussi dans les pays en développement des études maintenant qui montrent clairement une réduction du nombre de comportements, des comportements à risque dans les populations traitées. Cela a été d'abord documenté au Brésil, qui s'est engagé très tôt dans la prévention et le traitement, et c'est maintenant documenté dans plusieurs pays d'Afrique. Cette diapositive n'est pas tout à fait à jour non plus, puisqu'elle date de juin 2006, et en fait, c'est la semaine prochaine que nous donnerons les chiffres juin 2007. Ils sont sous embargo, ils seront donnés à l'Assemblée mondiale de la santé la semaine prochaine, mais il y a au moment où nous parlons, donc environ 2 200 000 personnes dans le monde en développement qui ont accès au traitement, et donc en moyenne 28% des besoins estimés sont maintenant couverts contre 2% en 2002. Et cette couverture des besoins estimés est donc considérablement meilleure qu'il y a 4 ans, mais elle reste très inégale. Vous voyez que en Amérique latine, on est pratiquement à 75% de couverture, donc on n'est pas très loin de l'accès universel. En Afrique subsaharienne, on a fait des progrès considérables. C'était 23% en juin 2006, c'est près de 26% maintenant, mais qu'il y a des régions où la couverture est vraiment inacceptable, comme l'Europe de l'Est et la Russie, très touchée par l'épidémie, où elle est de 13%, ou des régions comme le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qui ne sont pas des régions très touchées, mais où vous voyez que l'accès au traitement est pratiquement encore inexistant. Le traitement est, on le sait maintenant, efficace, et tout aussi efficace dans le contexte des pays les plus pauvres, ceux dont certains doutaient il y a quelques années, comme dans le contexte des pays riches. Ce que vous voyez dans le panneau de gauche de cette diapositive, c'est la mortalité cumulée à un an de traitement antirétroviral dans 23 cohortes de patients traités dans le monde en développement, résultats cumulés, et contre des résultats, contre la mortalité à un an de traitement antirétroviral dans le monde industrialisé, à droite. Bien entendu, comme vous le voyez, cette mortalité est 2,5 fois plus élevée dans le monde en développement que dans le monde développé. Cela tient à ce que, en grande partie, les gens commencent le traitement à des stades plus avancés de la maladie actuellement dans le monde en développement ou dans le monde développé. Mais il faut lire en fait cette diapositive à l'envers. Cette diapositive nous dit que 95% des personnes à un an de traitement dans le monde en développement vont bien, alors que ces personnes, pour plus des deux tiers au moins, seraient décédées en l'absence de traitement. Alors, il y a encore 4 ans, les experts, au sens large du terme, avançait tout un certain nombre de raisons pour lesquelles il nous disait « mais ne vous dépêchez pas, c'est de la folie de vous engager dans ce passage à l'échelle, comme on dit, du traitement du sida. D'abord, si les ressources sont rares, consacrez-les plutôt à la prévention qu'au traitement. » Ce qui était négligé, en fait, l'interaction dont j'ai parlé, étroite entre la prévention et le traitement, et ce qui était basé sur un calcul très, très simpliste qui disait un traitement coûte 5 000 à 8 000 dollars par an ou euros par an et par patient, alors qu'avec 50 cents, un préservatif peut sauver une vie. C'est évidemment, d'une part, ne pas prendre en compte ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire la baisse du coût du traitement. Les traitements de première ligne sont maintenant disponibles à 90 dollars par an et par patient dans le monde en développement. Et c'est ensuite négliger une sorte de un effet que les économistes connaissent bien, qui est que plus une intervention est menée à grande échelle et plus elle est coûteuse en elle-même. Donc avec 50 cents, effectivement, et un préservatif, il est facile de sauver une vie dans le quartier du Marais à Paris, ou à Castro, à San Francisco, mais quand il s'agit, comme je le dis souvent, d'apporter des préservatifs, que sais-je, au Qatar ou au Vatican, où il y a des besoins importants, il faut probablement apporter 1 000 ou 2 000 préservatifs avant qu'il y en ait un qui soit utilisé. Et donc, c'est 1000 fois 50 cents le coût de cette intervention, ou 2000 fois 50 cents. Cet argument ne tient pas. Celui de ce que les traitements sont à un coût exorbitant ne tient pas non plus, puisque je redis ce chiffre, $90 maintenant par an et par patient. Ces traitements, nous disait-on, ne sont jamais ou ne seront jamais coûts efficaces. Eh bien maintenant, les économistes ont démontré le coût-efficacité de ces traitements, même dans le contexte, en tout cas des pays dans la tranche la plus pauvre des pays à revenus intermédiaires de l'OCDE. On nous disait qu'on ne savait rien sur l'efficacité de ces traitements dans le contexte des pays pauvres. Je vous ai montré cette efficacité sur la diapositive précédente. On nous a dit que si on allait trop vite à passer à l'échelle, on déclencherait des résistances de virus et de nouvelles épidémies de virus résistants. En fait, les données sont qu'il y a moins de résistance actuellement chez les personnes qui prennent les traitements dans les pays du Sud qu'on en connaît dans les pays du Nord. Si ces défis-là sont pour moi passés et ont été pratiquement résolus sur, encore une fois, une tranche de temps extrêmement étroite de 4 ans peut-être, nous faisons face à de nouveaux défis ou à certains des anciens défis qui reviennent sous d'autres formes. D'abord, il faut accroître leurs ressources et puis il faut aussi assurer leur pérennité. Comment peut-on demander à un ministre de la Santé d'un pays en développement de présenter au Fonds global une requête ambitieuse pour des centaines de milliers de personnes en traitement antirétroviral si on lui dit que oui, nous avons le budget pour 2008, mais pour 2009, il faudra qu'on attende le vote du Parlement et nous ne sommes pas trop sûrs de ce que nous pourrons vous apporter, alors qu'il s'agit de traitements antirétroviraux qui ne peuvent en aucun cas être interrompus. Donc il y a un changement culturel nécessaire qui doit nous faire introduire cette notion de pérennité notre plaidoyer pour l'accroissement des ressources en matière de développement. De la même façon que nous ne sommes pas trop inquiets dans nos pays respectifs sur l'avenir des budgets de la défense, nous ne devrions pas être inquiets de l'avenir des pays, des budgets du développement. Or, nous le sommes. Faire face au coût croissant des traitements, parce que 10% environ des personnes traitées par les médicaments antirétroviraux doivent chaque année changer des premières molécules qui sont peu coûteuses vers des molécules dites de deuxième intention qui sont très coûteuses, faire face à l'insuffisance structurelle des systèmes de santé et à la crise des ressources humaines dans les pays en développement, et enfin poursuivre toujours et accroître notre effort de recherche. J'aimerais m'arrêter quelques instants sur ces trois points avant de terminer. À faire face au coût croissant des traitements, vous voyez sur cette diapositive que si vous débutez un traitement pour 2 millions de patients à $140 en moyenne par an et par patient, cette même cohorte, 2 ans plus tard, va plutôt, au lieu de coûter 270 millions de dollars par an, coûter 700 millions parce que une partie des patients auront dû modifier leur traitement du fait de la résistance du virus vers un traitement de seconde intention, parce qu'un certain nombre de ces patients auront été diagnostiqués avec une tuberculose et devront changer de médicaments antirétroviraux pour avoir des médicaments compatibles avec les médicaments de la tuberculose, et parce que certains auront dû changer aussi leur traitement du fait d'intolérance au premier médicament. Et les médicaments dits de deuxième intention, à droite, par opposition aux médicaments de première intention, il s'agit ici d'une diapositive de MSF, vous voyez, coûte entre 10 et 30 fois plus cher que les médicaments de première intention. Et le monde doit pouvoir résoudre cette question du prix des médicaments. Il faut que nous repensions, à mon avis, ce modèle de la propriété intellectuelle lorsqu'il s'agit des médicaments qui sauvent des vies pour les trois grandes maladies. Sinon, nous allons dans l'impasse et d'ici 2 à 3 ans, nous serons dans un dilemme impossible entre poursuivre le traitement chez tous les gens qui auront débuté un traitement dans les 5 dernières années ou pouvoir faire accéder de nouvelles personnes au traitement. Sur cette notion de pérennité des ressources, bien sûr, un des concepts intéressants et qui est né quelque part aussi de notre réflexion sur les défis auxquels le sida nous a confrontés, et encore une fois, le sens de mon intervention ici est de parler de la façon dont cette épidémie a impacté sur notre réflexion politique et économique en matière de santé et de développement. Un des débouchés récents, c'est l'intérêt que le monde politique a maintenant pour ce qu'on appelle les mécanismes innovants de financement. Le premier de ces mécanismes innovants de financement à avoir été mis en place, c'est, vous le savez, une taxe sur les billets d'avion en France, qui est en place depuis le 1er juillet 2006, taxe sur les billets d'avion dans laquelle maintenant 19 autres pays se sont engagés. C'est une taxe qui apporte des ressources qui ne sont pas anodines, 315 millions de dollars pour 2007, c'est-à-dire environ 60% de ce que le Fonds mondial dépensera cette année en matière de médicaments. Ce qui est très intéressant dans ce mécanisme, c'est que d'une part, les ressources sont pérennes, et donc United, la facilité d'achat de médicaments qui reçoit cet argent, peut aller négocier avec les firmes en leur disant « Nous vous garantissons que pendant 5 ans, nous allons acheter tel volume de tel médicament et donc nous sommes prêts à négocier avec vous une diminution des prix. » Ou bien United peut aller voir une compagnie de générique indienne et lui dire « Si vous venez sur le marché, nous allons vous acheter des médicaments pendant au moins 3 ou 5 ans. Cela vaut la peine que vous investissiez. » La deuxième chose particulièrement intéressante donc, de cette facilité de médicaments, c'est que par le volume même qu'elle gère, elle va pouvoir, je pense, influencer considérablement la dynamique des marchés qui, jusqu'à présent, est dans une relation, comme disait Michel Foucault, asymétrique et totalement asymétrique, puisque ce sont des demandeurs, les patients, les pays, les grands fonds comme le Fonds mondial, qui négocient avec un oligopole de 5 firmes pharmaceutiques qui ne sont pas en compétition entre elles, puisque quand nous prescrivons une trithérapie antirétrovirale, on prescrit généralement 3 médicaments qui viennent de 3 firmes différentes. Et enfin, la dernière question qui est actuellement en débat dans la communauté internationale, c'est celle du renforcement des systèmes de santé, au point, vous l'avez vu peut-être dans un article récent de Laurie Gareth dans Foreign Affairs, que certains viennent à dire « Arrêtons ces fonds SIDA, ces grands fonds verticaux, retournons au concept de base, c'est-à-dire investissons dans les systèmes de santé et, encore une fois, la santé viendra par surcroît. » Je suis très en désaccord avec ce point de vue, bien sûr. D'abord parce que quand on investit dans un système de santé, on sait ce qui se passe. Ça va servir à acheter un appareil de résonance magnétique pour un hôpital universitaire dans une capitale et ça n'ira pas aux plus pauvres. Et ensuite, parce que si véritablement on veut renforcer les systèmes de santé pour les pauvres dans les pays pauvres, il faut qu'on renforce les systèmes de santé qui se préoccupent des 3 maladies, car ce sont ces 3 maladies qui représentent en Afrique subsaharienne 70 à 80% du fardeau de la santé dans ce contexte. Et dans ce chapitre des systèmes de santé, j'inclus bien sûr la question de la crise des ressources humaines, qui sont limitées du fait de la migration, du brain drain, de la migration. Vous savez qu'il y a plus de médecins béninois en Île-de-France qu'il n'y en a au Bénin, plus d'infirmières du Malawi dans la seule ville de Birmingham en Grande-Bretagne qu'il n'y en a au Malawi. Il y a l'incapacité des pays pour évidemment à les retenir. Il y a le sida qui est lui-même un facteur de perte. 35% des élèves infirmières au Cap sont séropositives. Et puis, il y a des effets négatifs liés à la décentralisation sur le personnel que je ne vais pas discuter. Je reviens pour terminer à ma toute première diapositive, simplement pour redire que dans ce monde très rapidement changeant de la santé publique et du développement, et plus généralement de la place de la santé dans la mondialisation qui se construit, le sida a été un extraordinaire révélateur de dysfonctionnement, un extraordinaire facteur de changement, et j'espère qu'il le restera dans les années à venir. Merci de votre attention.